I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cet épisode de Nos Ciné vous est proposé en partenariat avec Séance Radio, la radio 100% cinéma, et c'est une production Binge Audio.
Binge.
Il y a quoi qui sort mercredi?
D'accord, ok.
Et l'Indien dans le truc Ikea, ça sort la semaine prochaine.
C'est quoi ça?
Ah, le fakir de machin,
ouais, le fakir,
le best-seller.
Mais c'est quoi?
C'est un best-seller.
C'est juste que c'est un best-seller, il y a marqué Ikea sur le bouquin.
C'est l'extraordinaire histoire de
du fakir enfermé dans une commode Ikea.
Ah,
dans
oui, j'ai vu
ça. Le film est...
J'ai jamais entendu parler de ce truc, je devais être en train de jouer un jeu vidéo.
Bonjour, c'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui entend déjà les reproches qu'on ne manquera pas de nous adresser. Pourquoi s'acharner à discuter des films issus de la franchise Star Wars si c'est pour en dire du mal à chaque fois? Pourquoi se faire du mal, comme avec les Marvel, à disséquer un univers dont vous n'attendez plus grand-chose? Eh bien parce qu'il serait un peu étrange qu'une émission de cinéma spécialisée dans ce qu'on appelle généralement la pop culture fasse comme si tout ça n'existait pas. Non, on est comme vous, une part de nous reste indéfectiblement attachée à tous ces imaginaires qui ont participé à notre construction en tant que cinéphile et même en tant qu'individu. Alors oui, on s'acharne, mais on ne sait rien faire d'autre, désolé. On va donc, vous l'avez bien compris, prendre le temps de revenir sur Solo, le nouveau spin-off de l'univers Star Wars, si on va le faire avec un trio de courageux contrebandiers de la critique. Perrine Kenson, salut Perrine.
Salut Thomas.
David Honora, salut David.
Salut Thomas.
Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane.
Salut Thomas.
C'est Nos Ciné épisode 140 et c'est parti.
Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Solo, donc, le nom lui-même suffit à comprendre ce qu'il propose de nous raconter, c'est-à-dire l'histoire de Han Solo avant sa rencontre avec Luke Skywalker, avant l'épisode 4, donc précisément comment le pilote et son faucon Millennium vont croiser la route des légendaires Chewbacca et Lando Calrissian et devenir le contrebandier que George Lucas nous présenta jadis.
190 years old? You look great! Push it!
Derrière la caméra, c'est Ron Howard, réalisateur d'Apollo 13, d'Un homme d'exception, de la trilogie Da Vinci Code, voilà, voilà. Au casting, on trouve Alden Ehrenreich dans le rôle titre, on l'avait découvert chez Coppola notamment. À ses côtés, Donald Glover en Lando Calrissian, Emilia Clarke, Woody Harrelson, Warwick Davis, le costume de Chewie étant endossé par le basketteur finlandais Jonas Suotomo, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Votre avis sur ce Solo, chers amis? Qui veut commencer? Perrine est à 1m50 du micro, donc ce sera pas elle. Tiens Stéphane, t'es en face de moi.
Ouais, que dire
Je ne sais pas.
Que dire sur cette merveille comment dire
ce
film de maverick, tu vois, de contrebandier du cinéma, tu vois, qui est venu terminer le travail des autres, quoi. Écoute, moi, à ma grande surprise, parce que comme je t'écoutais pas, je suis pas sûr que t'aies parlé du fait qu'il y avait quand même des gros problèmes de tournage sur le...
C'est sympa de...
Comme je t'écoutais pas.
Ouais, bah,
la bonne ambiance. Il fait 45 degrés, on s'envoie des scuds, c'est dégueulasse.
C'est honnête.
Voilà. C'est vrai que c'est honnête. Non, je n'ai pas parlé de la production du film qui a été catastrophique.
À ma grande surprise, c'est pas...
Dont nous avons parlé dans un Ciné Club il y a quelques temps déjà.
Que tu peux rappeler un petit peu, enfin le...
Bah, les problèmes de tournage, c'est en gros...
C'est moi qui anime l'émission, Nora.
Les problèmes de tournage, c'était... Oh, on va y arriver.
Vas-y.
Coupé. Pardon. Bon, les problèmes de tournage, en gros, c'est les deux zozos qui faisaient le film, là, qui, je sais plus comment ils s'appellent.
Lord et Miller.
Voilà, Chris Lord et Phil Miller, là, qui
les réalisateurs de Lego, la grande aventure Lego.
La grande aventure Lego, les 21...
Les 22.
J'ai pas dit ça?
Non, t'as dit l'inverse, mais c'est pas grave.
C'est pas Lord, c'est pas
Lord et Miller.
De toute façon,
donc,
c'est Lord et Miller. C'est
vous êtes très dissipé aujourd'hui.
Ouais. Et qui ont essayé de. Enfin, qui avaient fait 21 Jump Street, 22 Jump Street, qui ont fait une espèce de sitcom complètement. Enfin, c'est des mecs en fait qui ont des espèces d'eye concept comme ça, un peu moi je trouve un peu foireux. Il y avait ce sitcom c'est un sitcom de base et en fait la nana elle est mariée avec Musclor, quoi, des maîtres de l'univers, en gros c'était le truc, voilà. Et, il est en dessin, tu vois, et c'est le genre de truc en fait quand je vois ça je me dis mais ça marche comment, tu vois, donc pourquoi on va chercher ces gens là pour faire ces films-là, puisque apparemment, si tu veux, on veut plus d'eux à la fin. C'est quand même assez, c'est quand même assez évident vu le fonctionnement de Lucasfilm, pardon. Donc voilà, c'était des gens qui apparemment jouaient sur la logique d'improvisation dans laquelle ils sont assez, assez friands, qui déviaient du script du coup écrit par Kasdan père et fils. C'est ça, c'est Kasdan. C'est les deux. Hein. Non, non, mais parce qu'en fait, je m'y perds, moi.
On s'y perd.
Qui se ressemblent tous, quoi. Et voilà, en fait, le truc, c'est qu'ils étaient, ils étaient en plein dans le trip d'improvisation. Et en gros, à peu près au bout de 6 mois de tournage, ils se sont fait lourder à un mois de la quille, quoi. C'est quand même, tu te dis, c'est quand même assez hallucinant, en fait, qu'on en arrive là. Moi, j'ose même pas imaginer combien le film a coûté, parce qu'il a fallu, apparemment, si j'ai bien compris, re-shooter 70 à 80% du film. Pour en faire un film finalement extrêmement normal, quoi, extrêmement basique, à un point, je trouve, en fait, que c'en est presque surprenant au début. C'est-à-dire que moi, j'étais en train de dire, tiens, ça commence à peu près normalement. J'ai même pas l'impression. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont tellement réfréné, j'ai l'impression, la vanne à tout prix, qu'au début, les mecs, ils se limitent à raconter un récit, quoi. Et je me suis dit, ah tiens, bon. Puis au bout de 20 minutes, en fait, quand j'ai compris que... C'est-à-dire, moi, j'ai décroché à peu près au moment... donc c'est comme... Enfin, même pas un quart d'heure, je pense. J'ai décroché au moment où le mec, il dit, bon, on va t'appeler Han Solo, parce que t'es tout seul. Tu vois. Et là, les mecs, ils t'expliquent littéralement le nom du personnage, en fait, tel que tu le connais depuis 40 ans. Et tu te dis, ah d'accord, ça va être ça, le film. Ça va être... On va tout surligner, on va tout expliquer comment il rencontre Chewbacca. Donc, alors, t'as une scène où il rencontre Chewbacca. Et la scène, elle est à chier, parce que c'est un truc... Alors moi, je trouve que c'est une scène... Déjà, c'est pas une bonne idée, je trouve. Et en plus, en fait, c'est forcer la connivence du truc, parce que toi, t'es au courant de leur connivence, t'es au courant de leur fonctionnement, puisque t'as vu la trilogie originale. Tu sais que c'est les meilleurs amis. Et là, en fait, si tu veux, ils deviennent les meilleurs amis comment? Comme ça. Facile, tu vois, en se rencontrant dans une... Donc, à partir de ce moment-là, à quoi bon, en fait, jouer la rencontre? Autant dire, ils se connaissent depuis toujours, quelque part, si tu veux. Pareil avec... Pareil avec cette histoire d'amour un peu étrange, en fait, qu'il a avec cette fille qui, je me rappelle plus comment elle s'appelle dans le film, qui est interprétée par Emilia Clarke, quoi, qui est étonnante, parce que c'est en fait tous ces persos qu'il retrouve, en fait, dans le film, Lando, c'est des persos, en fait, qui vont définir la personnalité d'Han Solo. Sauf que quand tu joues une préquelle comme ça, c'est très compliqué pour moi, je pense, de jouer ça, parce que en fait ce n'est qu'un format, en fait, narratif pour te dire, vous voyez, nous aussi, on connaît le Han Solo de l'époque, donc en fait, on vous explique comment il est devenu le Han Solo que vous connaissez dans notre film. Sauf que, il s'est fait trahir par telle personne, il s'est fait, le machin lui a dit, tu fais ça, etc. L'autre lui a dit, t'es trop gentil, l'autre il dit, non, je suis pas gentil. Enfin bref, t'as tout un tas de trucs comme ça où ils définissent le soi-disant le perso tel que t'es censé le connaître. Et pour moi, en fait, c'est même pas que ça marche. Ça marche pas, je trouve, en termes de démystification. C'est-à-dire que, en gros, moi, j'ai pas d'intérêt. Moi, je sais qu'il y a Han Solo. J'ai pas besoin qu'on m'explique comment il est devenu Han Solo. Surtout qu'en plus, c'est pas bien fait. C'est-à-dire dans le sens où tu te poses vraiment la question. C'est-à-dire que tout le monde lui dit, Han, t'es trop gentil pour être un contrebandier. Il fait si, je suis méchant, moi, quand même, tu vois, etc., etc. Et effectivement, il passe son temps à se faire blouser par tout le monde. Mais littéralement blouser par tout le monde. C'est pas le mec qui blouse tout le monde. C'est littéralement l'inverse. Et t'as après ce truc de fan à la fin, si tu veux, pour les fans, genre Han shot first, tu vois, mais qui tombe comme un cheveu sur la soupe, quoi. Tout le parcours d'Han Solo, moi, ce qui me pose problème, en fait, avec ça, c'est recréer un parcours d'Han Solo, alors qu'en fait, il y a un parcours d'Han Solo dans la trilogie originale, alors qu'il a été un peu biaisé par le retour du Jedi. On sait que Han Solo, enfin, Harrison Ford voulait mourir pour offrir une vraie quête de rédemption à son personnage, qui était un personnage qui s'en foutait complètement, en fait, d'être dans cet univers où l'Empire avait une main mise, et qui, en fait, à la fin, le fait de mourir, c'était une rédemption, parce que d'un seul coup, il se joignait à la bonne cause, quoi. Là, le truc, c'est que tout le principe du film entier, là, c'est qu'il se joint quand même à la bonne cause. Mais en fait, à la fin, quand on lui dit tu t'es joint à la bonne cause, il fait oh non, 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 si vous voulez, en fait, j'ai fait ça, whatever, tu vois. Et alors, ça, c'est les premiers trucs, en fait, premier problème d'écriture pour moi assez majeur. Et alors, le deuxième gros souci, c'est que moi, j'avais vraiment l'impression de voir... Tu connais les Muppet Babies?
Oui.
Enfin, j'ai vraiment l'impression de voir ça, quoi. Ah. C'est-à-dire, ils vont voir bébé Han Solo, quoi. C'est-à-dire, vraiment, j'avais l'impression de voir que des adolescents de 17 ans essayer de jouer des adultes. Ce qui est étonnant, parce que les acteurs sont tous 30 balais, quoi, enfin, en gros. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est que j'avais je vais peut-être me contredire là-dedans, mais j'avais littéralement pas l'impression de voir le Han Solo que je connais du tout. C'est-à-dire que pour moi, j'ai l'impression de voir un autre perso qui s'appelle Han Solo, qui est habillé comme Han Solo, et qui enfin voilà quoi. Et du coup ce qui est pour moi problématique là-dedans, alors je pense que le choix de l'acteur principal est vraiment problématique aussi, c'est-à-dire que moi je l'ai pas vu, c'est dans quoi t'as dit, dans Coppola, c'est
dans Tétro,
dans Tétro notamment,
j'ai pas vu Tétro,
et dans le film des frères Cohen,
alors voilà, ouais. Alors moi j'ai, quand j'avais vu dans El César, je m'étais dit ah il est pas mal et tout dans ce rôle d'acteur qui joue mal tu vois, et en fait quand j'ai vu Solo, je me suis dit ah en fait il joue vraiment mal en fait, c'est ça c'est du psycho-casting en fait, le casting d'Ave César quoi. Donc voilà, elle aussi, elle est, enfin bon ça on le savait, à part Game of Thrones, elle est quand même pas terrible, Emilia Clarke quoi. En plus, un peu comme, parce que elle est connue pour ça à travers Game of Thrones en fait, oui. Un personnage de badass tu vois. Bon, dans Game of Thrones, c'est une reine, elle a pas besoin de se battre, elle a pas besoin de démontrer ça, c'est une question de pouvoir tu vois, donc très bien, donc ça marche tu vois. Quand tu la vois jouer Sarah Connor ou une pétroleuse là-dedans, tu te dis, bah alors les mecs, il faut peut-être lui filer un peu, je sais pas, un entraînement, quelque chose, parce que là, en fait, on a l'impression qu'elle sait pas se battre, on a l'impression qu'elle sait pas, et du coup, en fait, ça casse complètement le perso, quoi. Donc voilà. Donc, que dire d'autre ?
Je
pense que c'est un film qui se délite aussi pas mal. Je pense qu'il y a des gros problèmes de rythme. Mais bon, enfin ça, j'ai tendance à les mettre sur Ron Howard, en fait, parce que c'est quand même un réalisateur assez plan-plan. C'est bien plus soigné que les pires films que Ron Howard a pu faire, hein, les trucs genre Da Vinci Code, qui sont des hontes absolues. C'est là où je trouve que les problèmes de production se sentent pas forcément... dans la facture finale,
oui.
Mais plus dans le ton en fait qu'ils ont cherché à adopter, où à un moment donné, quoi qu'il arrive, passé les 20 premières minutes, il fallait absolument raccrocher les wagons avec toute la saga Star Wars, parce que tu comprends, sinon on est paumé, quoi, on connaît pas, on les a pas vus les originaux. Tu vois. Donc voilà.
Perrine.
Je suis d'accord avec ce que vient de dire Stéphane sur le choix de Ron Howard. Enfin, moi, je trouve que c'est pas un choix d'aller chercher Miller et Miller, c'est mélange maintenant. Lord et Miller.
En fait, on saura jamais comment ils s'appellent pour de vrai.
C'est tout leur but, je crois.
D'aller chercher Lord et Miller. Moi, j'ai trouvé au départ que c'était une idée de génie parce que je suis très très cliente de leur cinéma, que ce soit Tempête de boulettes géantes, que ce soit La Grande Aventure Lego ou les deux Jump Street. Je trouve que ça me fait vraiment vraiment marrer. Ils ont une liberté, ils ont un côté méta, ils ont un côté un petit peu foutraque et j'en foutre d'ailleurs qui moi m'amuse particulièrement, et je me suis dit c'est bien au moins Disney se permet de sortir un tout petit peu de son carcan. Et bon, et la preuve en est que pas du tout, Disney en est incapable et va chercher Dr Pepper
Dr Pepper.
Dr Pepper.
Ah d'accord, ok.
Mignon, Dr Pepper.
Ça,
ouais.
Ça, je me suis dit, en fait, il y a un truc, j'ai cherché le truc c'est avec le bouquin. Et voilà. Ouais. Je me suis dit, elle fait ça quand même devant David Honora.
Non, mais voilà, Ron Howard qui pour la dernière fois qui m'avait surpris, c'était avec Rush, où j'ai trouvé un film vraiment extraordinaire. Et depuis, il est retourné dans quelque chose. En voyant le film d'ailleurs, avant je me suis dit genre, oh, qu'est-ce que c'était bien Willow, et c'est tout ce que je me suis dit. D'ailleurs Warwick Davis ne vieillit pas, je tiens à le dire.
Il a l'air super parce qu'il y a Warwick Davis dans le film,
je sais. Il ne vieillit pas Warwick, oui, il l'avait annoncé, t'écoutes pas.
Ouais.
Et donc
ah oui, c'est vrai.
Mais non, voilà, donc je trouvais ça un petit peu dommage parce que résultat le film ronronne absolument et on est là genre bon bah c'est bien, voilà. Mais ce que tu disais qu'ils jouent mal, je suis pas d'accord. En fait, moi, je trouve pas qu'ils jouent mal. Je trouve que le problème, c'est qu'ils sont dans des carcans.
Oui, ils jouent faux, si tu veux.
Ils jouent pas faux non plus. C'est qu'on les a foutus dans des carcans. On a dit à Alden Ehrenreich, ne joue pas, joue Harrison Ford qui joue Han Solo. Mais si, clairement, on lui a dit,
ouais,
on lui a dit de faire ça.
Moi, je mais pas qu'il fasse ça.
Le problème, c'est que moi, je trouve que ça le bloque complètement, ce garçon. Résultat, il est pas, c'est pas Alden Ehrenreich que je suis en train de regarder. Je suis en train de regarder Alden Ehrenreich qui imite quelqu'un qui fait quelqu'un d'autre. Donc, résultat, ça devient de l'imitation dans l'imitation. Et moi, ça m'intéresse un petit peu moins. Et quand on dit que c'est la genèse du personnage. Allez, why not? Mais en fait, le truc, c'est que je trouve même pas que c'est une telle genèse. Dans le sens où quasiment tous les traits du personnage qu'on connaît dans les originaux sont déjà là en fait. C'est-à-dire que je trouve même pas que c'est ces actions-là qui vont le définir. C'est qu'il déjà dès le début du film, c'est un roublard. Dès le début du film, c'est quelqu'un qui aime la vitesse. Dès le début du film, c'est quelqu'un qui a de l'ambition. Dès le début du film, c'est lui qui pense à lui d'abord, mais qui a un grand cœur au fond. Enfin, je trouve que il est pas à aucun moment vraiment ces actes-là vont définir ce qu'on attend de lui, si ce n'est les gimmicks comme en effet Han Solo shot first. Enfin, il y a un truc où à ce niveau-là, je trouve pas que le film cherche à chercher tant d'origines que ça. Comment Lando Calrissian est déjà Lando Calrissian. Il est déjà ce mec un petit peu classe, funky, limite Blaxploitation, qui est vraiment sympa. Mais résultat, je trouve que rien dans ce film n'est surprenant. Rien dans ce film vient attiser quelque chose. Je me dis, ouh, tiens, ça, je ne l'avais pas vu venir. Non, je pouvais prévoir chaque seconde de chaque film. La séquence d'action, quasiment au milieu du film, la principale, fait « Ah bah ouais, là, fallait qu'elle tombe là. » Y a pas vraiment de scènes qui l'emportent, de scènes qui font dire des vrais money shots ou des vraies séquences dont je vais me souvenir, en fait, en réalité.
De toute façon, c'est sur ce point-là hein, qu'ils ont vraiment cherché à normaliser le film, en fait. Vraiment, ouais, c'est-à-dire, c'est là où tu ressens le reshoot, en fait. Si tu veux. Vraiment que ça soit normal.
C'est dommage. Que ça soit plat, quoi. C'est vraiment dommage, parce que justement, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'ils essayent de faire en rebootant toute cette saga? Moi, au bout d'un moment, je me dis, bah, les gars, justement, c'est l'occasion de créer et non pas de poursuivre quelque chose et d'éternellement refaire la même chose. J'avais déjà dit dans nos ciné de Pendant Cannes avec David, mais le coup du Faucon Millennium, j'en peux, quoi. Enfin, sérieusement, j'en peux du Faucon Millennium. Je trouve qu'il est très sympa. Moi aussi, j'aimerais beaucoup l'avoir.
Comment ils parlent, ces jeunes? J'en peux plus.
Non, mais voilà, mais
JPP,
quoi. Ah. Mais moi aussi, j'aimerais bien avoir le Faucon en Lego, s'ils veulent. Mais le truc, là, d'un seul coup, de « Oh là là, encore le Faucon Millennium, c'est génial !» Oui, bah c'est bon, quoi. Enfin, au bout d'un moment...
Mais, en fait, moi, le problème
c'était
que j'ai...
C'était Ron Howard que tu imitais, là.
Oui, c'était ça. C'était...
Ouais, enfin, je l'ai reconnu. Le problème pour aller chercher des mecs comme les deux réals dont on parlait, là, dont j'arrive pas à prononcer le
nom.
Lord et Miller, tu vois. C'est que, en fait, en gros, les mecs, ils font... Enfin, ce que tu dis avec le Faucon Millennium qui apparaît, tu vois, c'est dans Lego Aventure, hein, tu vois. Et j'ai l'impression qu'en fait, chez Lucasfilm, ils sont ils connaissent Star Wars, on va aller les chercher, tu vois.
Parce qu'en fait, t'as trois secondes. En fait, c'est que ça la saoule que chaque nouveau film, comme si l'apparition était un truc.
Je pense qu'ils auraient fait ça dans l'absolu.
Non, ils l'auraient détourné parce que c'est leur force. Leur force, c'est justement d'aller chercher les icônes. Ouais. Mais ils le faisaient déjà dans la grande aventure Lego.
Et
ils
de leur mettre un doigt dans le cul. Bah, c'est ça le problème. Tu vois.
C'est ça que je trouve ça bien. C'est-à-dire qu'à un moment, ils désacralisent.
Le problème pour moi, c'est pas une question de désacraliser. C'est-à-dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est ce qu'ils sont en train de faire aussi avec tous ces films-là. C'est-à-dire que qu'on le veuille ou non, et pour le coup, moi qui déteste la prélogie. C'était quand même là, si tu veux. Et alors, bon, il a essayé, hein, mais évidemment, tout le monde l'a tellement gueulé dessus qu'il a retiré ses midi-chloriens et tout ça. Mais à la base, Star Wars, c'est une mythologie. Une putain de mythologie comme il y en a, finalement, pas beaucoup qui émanent littéralement du cinéma. Et le problème, en fait, c'est que là, c'est en train de devenir une marque.
Oui, non, je suis d'accord. Et si on fait que reciter en permanence ce qui préexiste, je suis d'accord, mais je suis persuadé.
Mais ça le déconstruit quand même.
Je suis persuadé que si c'était Lord et Miller, mais encore une fois, on parle sur une hypothèse d'un truc qu'on ne verra jamais.
Moi, j'aimerais bien parce qu'il y a quand même, à mon avis, 6 mois de shoot, tu vois.
Aussi, j'adorerais le voir.
Peut-être un jour.
Mais le truc, c'est qu'on ne sait même pas, mais moi, je suis persuadé que ces mecs-là, et parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils ont des idées, parce qu'à mon avis, ils sont pas justement, et c'est pour ça qu'ils se sont fait virer. Parce qu'à mon avis, ces mecs-là avaient apporté quelque chose d'un peu frais. Un peu frais.
À mon avis, c'est des mecs qui construisent leurs films au fur et à mesure où ils sont en train de les shooter. Et le problème, tu me diras, comme tous les films dans l'absolu, sauf que je pense qu'eux, ils n'ont pas une ligne directrice puisqu'ils décident de la foutre à la poubelle, tu vois. Je veux dire, moi, qui déteste leurs films, vraiment, c'est-à-dire que 21 Jump Street et 22 Jump Street, c'est pas du cinéma pour moi.
J'adore,
c'est
encore revu cette semaine.
Pour moi, c'est à un moment donné, en fait, tu fous la dramaturgie à la poubelle, tu racontes plus rien, juste parce qu'à un moment donné, là, en fait, machin, on lui baisse son froc, l'autre, il a fait une blague de même, l'autre, il a machin, et au bout d'un moment, moi, j'ai la tête comme ça, je suis trop vieux. Et le truc, c'est que.
ça doit être ça.
Et le problème, c'est que moi, j'aime bien qu'on me raconte quelque chose, tu vois.
Mais je suis pas d'accord, je trouve que justement, il raconte quelque chose en les revoyant.
Ça n'est pas le sujet.
Et en l'occurrence, je pense que fondamentalement, je pense qu'ils se sont fait virer aussi, enfin, c'est une supposition de ma part, certes, tu vois. Mais je pense qu'ils se sont fait virer aussi parce qu'à un moment donné, ils ont démontré qu'ils n'avaient pas forcément en fait, le contrôle sur ça. De la même manière qu'ils n'avaient pas forcément le contrôle sur les autres et qu'ils ont fini par s'en sortir si on apprécie les films. Mais le truc, si tu veux, c'est que je pense que sur des enjeux à 300 patates, non, tu fais pas ça.
Personne n'a le contrôle à part Lucasfilm et Disney, quoi.
Ils l'ont démontré.
Voilà. Et je pense que... Je vais passer la parole à David Honorat qui vient de se réveiller à l'instant.
Non, j'étais là, je suis
lui,
là,
j'avais lui.
J'avais l'impression religieusement. Que le film redéfilait devant mes yeux une fois de plus. je rejoins complètement Perrine sur cette histoire de Faucon Millennium et compagnie. En fait, tous les artefacts de Star Wars qui sont surimposés à chaque nouveau film et comme disait Stéphane, en fait, la mythologie devient une marque et je pense que ça fait partie des guidelines imposés aux réalisateurs de dire il faut absolument que tu fasses un plan épique avec le Faucon Millennium parce que bordel, c'est notre meilleure vente en jouets sous toutes ses formes. Donc, il faut bien imprimer dans la tête de tous les gosses qui vont découvrir ce truc.
Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est le distributeur de PQ Faucon Millennium se vend mieux que le reste. Mais, tu vois, mais c'est même pas le jouet, tu vois.
Et peu importe, le but, c'est de d'imprimer dans l'esprit des jeunes spectateurs, de marteler l'ensemble des éléments phares pour pouvoir vendre des produits dérivés. Et donc, doit y avoir un carcan de plus en plus rigide dans lequel les réalisateurs doivent s'installer. Et c'est très compliqué. Après, moi, alors je voudrais qu'on parle d'un truc, et d'ailleurs, ça me permet de revenir sur un truc que j'avais dit dans la spéciale Alien, où j'avais dit que j'avais un peu de mal avec le premier Alien parce que je trouvais que l'image était trop sombre, moi qui suis un peu daltonien, oui. et du mal à voir le film. Mais alors là, je m'y accule à mort, parce que un film vraiment sous-exposé, pour moi, c'est un cauchemar, en fait. C'est-à-dire que
j'ai lu ces retours là de Cannes, en fait. Mais moi, je l'ai vu à Paris.
Tu l'as vu à Paris, t'as pas eu ce problème.
C'est effectivement sous-exposé par un film actuel, mais c'est pas enfin, ça va.
Moi, je voyais rien.
Alors là, ça serait intéressant. Alors, je ne vais pas aller le revoir à Paris pour faire le constat, mais si vous pouvez faire des petits commentaires, donner vos retours sur Facebook ou sur SoundCloud où vous voulez pour nous dire ce que vous avez pensé du film. Alors moi, vraiment, j'ai vu un film très très sous-exposé.
C'est peut-être Team Lunettes, hein, parce que toi et moi on a des lunettes, alors peut-être qu'on y voit que dalle, mais clairement. J'étais très sous-accessible.
Non, mais surtout, il faut aussi qu'il soit sous-exposé aussi dans la à Cannes, en fait, dans la salle. Quoi.
Alors, c'est peut-être des histoires de réglage. Alors surtout que le film a été vendu toute la campagne promo, justement, les affiches, etc., vendent un truc presque un western technicolor. Ouais. Quoi. Il y a un truc que je trouve on ne retrouve pas du tout dans le film, que tout est très terne aussi dans l'écriture des personnages. On a parlé de Lando, et par exemple, je ne trouve pas du tout à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer.
Il a 20 minutes de film de présence.
Exactement, et en plus avec des répliques pourries, c'est vraiment un truc... Il paraît inexistant, et donc... Et donc voilà, moi j'ai en plus de tout ça, cette réserve visuelle sur le film, en tout cas dans la manière dont je l'ai découvert, donc à élucider pour savoir si c'est des projections à Cannes qui étaient spécifiques, etc. Et puis l'autre truc, c'est que finalement je vois aussi une perspective, on en avait parlé sur les précédents Star Wars, où je pense qu'il y a un intérêt, en fait, à s'émanciper au maximum du genre du canon principal pour essayer de faire autre chose. Et je trouve qu'il y a une petite tentative là-dedans qui va, à mon sens, pas assez loin, mais qui fait qu'on arrive un peu à oublier Star Wars, notamment parce qu'il n'y a pas de Jedi,
il n'y a pas
de sabre laser, etc. Et du coup... peut-être un peu plus longtemps que Stéphane, j'ai été pris par le récit et par...
chose avec Rogue One, si tu pars par là, même si la différence peut-être avec Rogue One étant que...
C'était encore plus anecdotique, en fait.
Quoi qu'il arrive, dans Rogue One, en fait, la suite, c'est Star Wars épisode 4.
Exactement. Là, le problème alors que là, il y a une ligne à part, en fait.
Ouais, sauf que t'intéresses, toi, à l'histoire d'Emilia Clarke, vraiment ? Enfin, t'as envie de suivre leur rapport dans la soi-disant trilogie qu'ils ont...
Non. Parce que... Non, mais moi, en fait, on en a parlé tout en intro d'émission, c'est-à-dire que c'est tout le paradoxe de ces films, c'est-à-dire que leur argument principal, c'est d'être Star Wars. Et en même temps, si c'était exactement le même film dans un autre univers ou un autre concept, on n'entendrait même pas parler. Donc, le truc, c'est que moi, ça m'intéresse pas vraiment de creuser l'univers. Et je trouve qu'il y a... Enfin, entre guillemets, il faudra encourager au maximum à s'en émanciper et à raconter des choses qui seraient, qui utiliseraient juste l'univers Star Wars comme un décor pour faire, je sais pas,
tout on a
déjà parlé
ça.
Des comédies musicales, tout ce que vous voulez.
Excusez-moi, il faut créer quelque chose de nouveau, quoi. Arrêter de vouloir désespérément de faire la même chose.
J'avais cet effet un peu. Alors toi, tu disais Stéphane les Baby Muppets.
Muppet Babies. T'as une scène dans les Muppets à Manhattan où en fait à un moment donné, ils se délirent et t'imagines si on s'était connus quand on était enfant.
Ouais,
en fait, t'as une scène comme ça où tu les vois enfants.
Ouais.
C'est très bien dans les Muppets de vie, c'est une scène.
Ça me fait penser à ces jouets, ces sortes de poupées à grosses têtes qui pour moi sont le cancer de la pop culture. Là, je sais pas si vous voyez.
Ah oui, Funko Pop là.
C'est horrible. Et donc, qui sont des produits dérivés, donc avec des sortes de. C'est des poupées avec des très grosses têtes.
Ah oui, d'accord, les Funko Pop.
Et je trouve que, en fait, comme tous les acteurs ont des têtes un petit peu juvéniles, même s'ils sont pas si jeunes que ça, en fait, ils ressemblent à des versions versions funky pop, je sais pas quoi, des personnages. Et c'est horrible, ça. C'est vraiment, t'as l'impression, non, mais c'est t'as l'impression que c'est la version Mario Kart des personnages, quoi, avec des grosses têtes.
Ouais, et en plus, je te dis, le truc, en fait, c'est que pour moi, ce personnage là, enfin l'acteur qui joue Han Solo dans celui-là, le problème en fait, si tu veux, c'est qu'il a, même pas le, c'est-à-dire Harrison Ford, quoi qu'on en pense, et c'est même pas une question moi je l'ai pas découvert à l'époque le premier quoi, puisque j'avais un an quand c'est sorti, mais le truc c'est que j'ai vu le Retour de Jedi pour le coup en salle, et malgré ça, en fait, si tu veux, sans avoir vu les deux premiers avant. Et c'est un mec qui ressort littéralement, c'est-à-dire il bouffe l'écran, ce mec-là, Harrison Ford à la base, tu vois, en plus à l'époque.
Bah, surtout, et même dans le casting voilà, du film de l'époque.
Je pense qu'il bouffait clairement l'écran, si tu veux, quand tu découvrais Star Wars la première fois. Là, le problème de celui-là, c'est que t'as l'impression qu'en fait, je sais même pas si c'est une question d'avoir le poids sur les épaules, quoi.
Bah, c'est si, on lui demande d'aller dans des chaussures qui sont quand même vachement grandes, enfin, c'est quand même pas facile.
Je suis d'accord, mais le problème, en fait, si tu veux, c'est qu'il a quand même, il s'impose pas, quoi, tu vois.
Mais encore une fois, moi j'insiste sur cette histoire de carcan. Le type, on lui donne aucune liberté de jeu. Il ne peut pas
jouer.
Moi,
je te parle de charisme.
Oui, mais moi, je parle pas de charisme. Moi, je le trouve charismatique, ce garçon. Mmh. C'est pas la question. C'est juste que je trouve que là, on lui demande même pas de jouer. On lui demande de copier. Donc, c'est pas si intéressant.
Ça rejoint plus ou moins le concept du film.
Et pour le coup, Donald Glover a beaucoup de charisme et il ne s'en sert pas, quoi.
Oui, mais Donald Glover, on le connaît pourquoi ? C'est-à-dire qu'en gros, si tu veux, on le connaît parce que c'est un type, en fait, qui fait ses trucs à lui. Que tu le veuilles ou non, en fait, on l'a découvert dans Community, on l'a découvert en rappeur. Tu vois, c'est ses trucs à lui. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'en fait, on l'aime à ces moments-là quand il est libre de faire ce qu'il veut, et voilà. Non mais
vous donnez de l'eau à mon moulin, enfin c'est exactement ça, et c'est juste
on ajoute de l'eau au moulin,
et je reviens juste une dernière chose sur la scène. Tu parlais de la rencontre de Han Solo et de Chewbacca. Moi je trouve justement c'est l'une des scènes les plus réussies du film. J'aime beaucoup cette idée qu'ils se rencontrent dans l'adversité, que à un moment donné voilà ils sont opposés l'un à l'autre, et que c'est parce qu'ils doivent se sortir tous les deux d'une galère monstrueuse qui les a obligés à être opposés, qu'ils vont s'unir. Je trouve pas qu'ils deviennent amis du jour au lendemain.
Mais ça, c'est l'idée de la scène. Pour moi, l'exécution de la scène, si tu veux, c'est les mecs, ça en fait, on fait ça, et l'autre, il fait, on fait ça. Tu vois. Et d'un seul coup, en plus, il y a Han Solo qui se met à parler en Wookiee, et j'étais là, genre, hein, tu vois, parce que je sais qu'il comprend, tu vois. Mais j'ai pas le souvenir en fait qu'il parle Wookiee dans la trilogie originale. Et donc là il parle Wookiee. Mais c'est ce qui est quand même un truc où tu te dis, mais comment est-ce que ça marche en fait dans votre tête?
C'est possible parce que quand j'étais jeune, je parlais mieux espagnol que maintenant.
Non mais
il a perdu son Wookiee. C'est ma théorie, voilà. D'accord. Fin d'épisode.
Instant confession.
Waouh, ça va trop vite là. Il y a trop d'infos.
Ça c'est du Lord Miller. Je suis largué, tu vois.
Tu vois, moi je trouvais ça cool, ça m'a fait rigoler.
Si tu vas plus à Barcelone et tout, tu parles plus espagnol.
Non mais déjà tu vas à Barcelone, mon gars, ça veut rien dire.
Après,
si tu vas à Barcelone, déjà les mecs qui parlent catalan, ils parlent même pas espagnol.
La limite de ma théorie, c'est que continuer à vivre avec son Wookiee, donc ils auraient pu continuer à parler. Donc c'est complètement con. On a
largué tes amis espagnols depuis bien longtemps. Avant de se quitter, bon, que vous alliez trop loin dans les anecdotes personnelles, comme d'habitude, Star Wars ou pas, on va offrir à nos auditeurs plus que des anecdotes, mais plutôt des recommandations toutes fraîches. Évidemment, vous êtes libre de vous éloigner de cet univers que nous venons d'évoquer en long et en large. Qui veut commencer? Vous n'avez pas internet dans cette salle, c'est pas la peine de chercher des recos sur vos téléphones.
J'avais noté.
Stéphane, toi, t'es prêt? Tu me regardes, t'es
toujours prêt? Ouais. Toi, même quand je t'écoute pas.
Ouais, je sais. Tu poursuis ta grande œuvre ou pas?
Bah, évidemment, mais moi j'ai fini jusqu'à la fin de saison. Hein.
Ah oui, c'est ça.
Alors le problème, c'est que j'ai un peu épuisé tous les. J'ai l'impression que j'ai épuisé tous les Clint spatiaux, enfin tu vois, donc là c'est un peu un Guys in the Mission Movie, tu vois, okay, ouais. Donc on y va, tu vois, on a une mission à faire et tout ça, etc., etc. Donc je vais suggérer Quand les aigles attaquent, qui est quand même un super film de commando, où Clint Eastwood est comme je ne regarde que Clint Eastwood en général, donc j'oublie les autres acteurs, mais c'était c'est un grand acteur en plus, merde, Richard Burton, pardon, voilà, infiltre un château nazi et bousille tous ces putains de nazis avec, je crois il y a 80 nazis qui crèvent, 85 nazis, un truc comme ça, c'est magnifique.
Ah, c'est vrai que c'est bien.
J'aurais bien aimé qu'il y ait plus de nazis qui meurent dans Solo,
mais ça aurait pu, ils auraient pu reprendre.
En fait, sur Solo, ils auraient dû mettre Solo et ils expliquent après pourquoi le film s'appelle Solo. En dessous, tu vois, voilà aussi, c'est ça que tu vois, histoire d'y aller, tu vois. Non, mais quand les aigles attaquent, vénère.
Ouais.
Clint qui défonce au machine gun et tout, c'est magnifique.
Ça vaut le coup, je soutiens. Allez, second. Perrine.
Ouais, je l'ai mentionné un peu plus tôt, mais c'est parce que c'est pour me rappeler, moi, quelque chose j'aime bien de Ron Howard, à l'époque où il n'y avait pas encore eu Da Vinci Code, il n'y avait pas encore eu tout ça, j'avais encore beaucoup de respect pour ce monsieur. C'est Willow, que moi j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Là, on est aussi dans cette. Solo, c'est vraiment quelque chose qui est plus dans l'ordre du film de braquage et de western, donc c'est pas du tout le cas de. de Willow, hein, soyons bien clairs.
On peut pas dire.
On peut pas dire, même
ça,
si bon.
En même temps, ça manque de nains dans Solo.
Ça manque de nains. Il y en a. Il y a Warwick Davis. Et donc, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y avait quand même dans ce film-là de la fantaisie, il y avait de l'énergie, il y avait de la création. Ça a un peu vieilli quand on le regarde maintenant, mais bon, moi, je trouve que ça reste toujours très 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 très, très magique. Et c'est bien ce que je reproche à Solo, c'est juste, même si en effet l'univers n'est pas magique en soi, il manque de merveilleux. Et c'est ce que je reprochais aussi à Rogue One, c'est de manquer à un moment donné de merveilleux là où Star Wars il y a du merveilleux. Et c'est pour moi le vrai problème de ces spin-offs, c'est qu'ils, et là où ils respectent pas pour moi le Star Wars, c'est que ça manque de merveilleux. Et alors j'encourage vraiment à revoir Willow à ce niveau-là pour la dose de merveilleux, je l'aurais dit 7 fois.
C'est pas mal. Film qui m'avait traumatisé à l'époque, totalement. David,
pourquoi? Non,
j'avais
très
peur. Pourquoi? Parce qu'il y a une scène avec des loups.
Oui, au tout début, des espèces de sangliers loups.
Qui sont horribles. Et je l'ai vu, j'étais très jeune et j'avais eu très peur.
C'est terrible de découvrir les films 10 ans.
Je l'ai pas vu en espagnol pour le coup, contrairement à David Denor.
T'aurais parlé espagnol, t'aurais pas eu peur.
Non, c'est ça. Hola, David. Qu'est-ce que
t'as? Justement, je ne peux pas me lancer dans le recours en espagnol.
Je pense que c'est n'importe quoi cette émission.
Ça va te poursuivre pendant beaucoup d'émissions, cette histoire.
Mais du coup, non, bah, je cherche dans la filmo de Ron Howard et j'ai envie de recommander. Alors, c'était le genre de film qu'on louait en VHS dans les années 90. C'est La Rançon. C'est un film de 1996 avec Mel Gibson. Je trouve que c'est un des films où, pour le coup, Mel Gibson, en tant qu'acteur, apporte vraiment un plus au film. C'est un scénario de Richard Price qui avait fait la couleur de l'argent. Et je trouve le scénario assez bien filmé et surtout ficelé, pardon.
Oui.
Mais plus mieux ficelé que filmé, d'ailleurs, pardon, le lapsus. Et l'argument de départ me fascinait à l'époque quand j'étais jeune. En gros, c'est Mel Gibson est un riche homme d'affaires, se fait kidnapper son gosse. Les ravisseurs demandent une rançon et sa parade, au bout d'un moment, c'est de dire bah, j'ai la thune, mais en fait, plutôt que payer la rançon, je mets votre tête à prix et je donne la thune à ceux qui vous butent. Et il y a un truc assez.
Il n'y a qu'un seul problème avec ce film, c'est que c'est Ron Howard qui l'a réalisé. Quoi.
Mais le scénar est quand même vachement bien. Il y a un truc. C'est vrai que ça aurait pu être un truc beaucoup plus subversif, beaucoup plus puissant, mais ça se regardait pas mal. En tout cas, je ne l'ai pas revu depuis un moment. Mais je vous conseille de découvrir ça. Voilà.
Magnifique. Et notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à David à la technique. Merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement public si vous voulez venir nous voir. Et puis en attendant, on vous dit à très vite. Ok, c'était n'importe quoi.
Binge.
Et tout de suite, un message de notre partenaire.
J'adore mon boulot.
Vous êtes la crème de l'aristocratie française.
Vous avez compris ce que je vous ai dit?
Oui, cancer du poumon, inopérable.
Next épisode, c'est le nouveau rendez-vous 100% série de Séance Radio avec Charline Roux et son équipe.
On ferait mieux de rebrousser de main, les gars.
J'ai fait du mal. J'ai compromis des missions.
Des policiers français, on peut les acheter et pas les tuer.
Next épisode, le mardi à 19h sur Séance Radio et disponible sur toutes les applications podcast.
Your favorite one-hit wonder.
Or that overpriced toy your parents would never let you have.
Or that TV show that no one else remembers because it was canceled way too soon. Now what if we could fix it? I'm Francesca Ramsey.
And I'm DeLon Grant. And after 20 years of friendship, we are now hosting a new nostalgia podcast called Let Me Fix It.
Each episode, we'll dig into our favorite celebrities, shows, and brands of yesteryear, and then imagine what it would take to repackage them for relevance today.
Think of our show as an intervention, but with way less stakes.
So subscribe to Let Me Fix It wherever you get your favorite podcasts.